On marche, 5e édition, Marrakech. Entretien, Dominique Boivin, pour sa pièce Transport exceptionnel. Transport exceptionnel est une pièce qui travaille des allers-retours entre la terre et le ciel. Chaque chose est donnée pour elle-même, tout comme elle porte en elle un choix plus métaphorique. Ainsi, transport exceptionnel n'est rien d'autre qu'une grosse machine dont le déplacement sur un véhicule nécessite cette appellation. Ce que cet engin soulève comme figure de style dans sa manipulation avec un danseur, c'est la notion de transport comme élévation. Comment transformer un matériau, le faire passer du solide à l'état gazeux? Tout le mouvement de la proposition chorégraphique, entre le danseur et la machine, relance les thèmes de l'idéalité en passant par le mode élégiaque, courtois, puis lyrique. Tantôt, la machine se refuse au danseur et le laisse entamer sa complainte à l'ovide, suppliant Corinne de lui ouvrir la porte de la maison. Tantôt, le danseur prouve sa bravoure à sa belle et se laisse porter par son amour. Il y a toute une palette de l'histoire amoureuse entre ce duo qui semblait antagoniste. Aussi, toute l'histoire de l'homme et de la technique, comme celui qui met le monde en chantier, entre le mouvement d'extraction, pillage de la terre, destruction, le monde comme un gruyère, et de construction, investir le monde, l'habiter, le célébrer. C'est donc une relation qui s'effectue par la passation des forces de la terre à celles de l'homme, des forces de l'homme à celles de la machine, et de la machine à celles de l'homme.
On marche, festival Marrakech, 5e édition, festival de danse contemporaine. Rencontre, entretien avec Dominique Boivin pour le spectacle Transport exceptionnel de la compagnie Beau Geste. Dominique Boivin, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, peut-être vous remercier d'être venu ici à Marrakech pour ce festival de danse, un festival précaire dans son économie. Et les artistes viennent ici bénévolement pour soutenir la démarche entreprise depuis maintenant 5 ans. Et je pense que c'était important de le souligner, de cette venue. Vous avez présenté ici à Marrakech un spectacle qui s'intitule Transport exceptionnel. La compagnie s'intitule Beau Geste. Transport exceptionnel, c'est un duo entre un corps humain et une machine, une peltos. Autour de la table pour cette discussion, Amandine, Marion, Moacine, Mounir. C'est une partie d'une équipe qui a été constituée pendant le festival pour tenter de s'exercer dans le regard, d'essayer d'être dans une pratique du regard tout au long de ce festival. Alors, nos questions seront peut-être un peu naïves, un peu jeunes, Nous avons découvert le spectacle en début de festival, en ouverture, car votre spectacle a ouvert le festival. Et ce spectacle, c'est un spectacle qui a été proposé en extérieur, place Jamaa El-Fna, qui est la place principale de Marrakech. Pour ouvrir, je vais laisser à Amandine la première question. À moins que vous souhaitiez dire quelques mots en ouverture.
Peut-être une chose, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'implication comme ça bénévole de la part d'une compagnie. Ce qui est important peut-être de souligner, c'est qu'il y a deux réalités. La réalité que nous pouvons vivre en France, subventionner, aider, toutes les structures savent ce que c'est qu'un accueil, etc. etc. Et on parle toujours d'argent, il y a toujours des contrats signés avec de l'argent. Ici, c'est une démarche. Et ça veut dire qu'effectivement, le rapport à l'argent, il doit être reconsidéré d'une manière tout à fait différente. Ce n'est pas comme en France. Et je pense que c'est important de le souligner, ça. C'est juste, c'est différent. Ça veut dire que j'ai aussi des choses à apprendre ici. C'est une autre réalité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie. La preuve, c'est qu'on est là. C'est que ça veut dire que c'est des réalités différentes. Donc
dans ce duo entre un, entre un danseur et une machine, pour certains choix de mouvements et de phrases, on peut y voir comme une forme en fait de tauromachie ou de tauromachine. C'est-à-dire que le rapport entre le danseur et la machine rejoue tout un principe de domestication. Et par exemple, en fait, domestiquer un animal ou une machine, c'est aussi se domestiquer soi-même. Et donc, on voit à chaque fois le transfert de force de la machine à l'homme. Et je voulais savoir, est-ce que la domestication de la machine est une domestication de son propre corps de danseur ?
Alors, c'est intéressant, mais je ne me suis pas posé les questions comme ça. C'est-à-dire que tauromachine, j'aime bien, d'ailleurs, c'est un jeu de mots assez intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé de faire, c'est de... En fait, plusieurs choses, c'est plusieurs métaphores là-dedans. La première, c'est que je souhaitais faire un duo dans la rue. Et plus, j'ai vu beaucoup d'expériences qui ont été faites physiques, et j'ai toujours trouvé que le rapport était... il fallait grandir le rapport, c'est-à-dire le mettre au niveau de l'urbain. L'urbain, c'est quelque chose, c'est une grosse machine, l'urbain, dans laquelle nous participons nous aussi en tant que passants. Et je me suis dit, ça serait intéressant de trouver un dialogue à la hauteur de cette machine que nous sommes quand nous sommes justement dans la rue. Nous, publics, nous passants. Et donc, la pelleteuse, qui est un engin de chantier ultra basique, je me suis dit, c'est un outil, c'est un objet qui pourrait parfaitement faire office, en fait, de danseur. Et à partir de là, je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir mettre en scène la machine, seule, accompagnée à 2, 3, 4, 5 personnes, etc. Et je me suis dit, après, que ce serait intéressant d'imaginer un duo très académique, au fond. Très classique dans la forme. Ça veut dire que c'est un duo, c'est quasiment un adage. On pourrait très bien imaginer ça, la belle au bois dormant, je ne sais quoi. C'est-à-dire très 19e au fond. Sauf que ce n'est pas avec un homme et une femme, c'est avec une pelleteuse. Et pour humaniser mon idée, j'ai utilisé la calasse. Ça veut dire que j'humanise le duo entre la machine et le danseur. Et plutôt que d'utiliser la machine comme un objet qui fait mal, qui est tue, comme dans Terminator par exemple, j'ai préféré l'utiliser comme une machine plutôt, extrêmement fluide, pour qu'elle ait un regard bienveillant sur les gens qui passent dans la rue. Et que ce ne soit pas une machine qui fasse mal, mais une machine qui puisse être effectivement douce. Au fond, c'est une métaphore, alors là après c'est mon amusement à moi, dans le bon sens du terme j'espère, c'est une façon de dire que le monde est toujours en chantier et qu'il est... positif, c'est ma façon à moi, je crois, de voir l'évolution du monde. Je n'ai pas peur du monde en action. Je crois que sur 100 personnes, par exemple, il y en a toujours une personne qui dira « Je ne suis pas d'accord d'aller dans ce sens-là, dans un sens négatif pour l'homme. » Donc je crois à la vie dans le sens du chantier. Voilà, c'est dans le sens positif du terme.
Comment vous avez travaillé
le rapport de la danse et du danseur. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident pour un danseur de prendre ce risque-là. Le corps d'un danseur, c'est quelque chose d'assez précieux puisque c'est son seul médium. Et le confronter à la machine et lui faire prendre ce risque-là, comment vous avez travaillé ensemble ?
C'est aussi une bonne question. Je crois que c'est parce que c'est Philippe. Je l'ai écrit pour lui. Et je me souviens quand Brumachon m'avait raconté qu'il avait écrit Icare pour Benjamin Lamarche. Et je pense qu'il y a des fois, quand on s'attaque comme ça à des, je dirais, pas des mythes, parce que je ne me suis pas intéressé à un mythe, là, mais précisément. Mais je crois que j'ai réfléchi à... Je me suis dit, la seule possibilité, c'est de demander à un corps de ce type-là, c'est-à-dire un corps musclé, qui, d'une certaine manière, puisse être en relation harmonieuse avec la machine, parce qu'elle est en fonte. Et je pense qu'un danseur fluet, type moi par exemple, je pense que ça aurait créé un autre type de... Ça aurait peut-être mis le corps en fragilité. Là, il est fragile, on sent que c'est quand même de la chair, mais on a la sensation que quand il fait, par exemple, les jambes à l'équerre, on sent qu'il y a de la force, il y a du muscle chez lui. Donc, peut, entre guillemets, être à la hauteur de la violence de cette machine. Mais c'est un leurre, hein, mais on peut imaginer qu'ils sont sur le même... Voilà, sur le même niveau, quoi.
Par rapport à ça, je pensais plutôt à... Par rapport, oui, au fait que c'est un corps extrêmement... Avec un corps de danseur qui a beaucoup de tenue et d'agilité, enfin, une grande maîtrise. Il a aussi une position où je pensais beaucoup plus à l'élégie. C'est-à-dire, tantôt, c'est une forme de poète qui resterait au seuil de la porte, mais qui, par une tenue de mots, en fait, réussirait à convaincre la machine ou l'amante d'adopter une forme de dialogue et de rencontre charnelle.
C'est tout à fait vrai. Je pense que je suis là-dessus extrêmement romantique. C'est-à-dire que c'est une vision romantique. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il n'arrête pas de la solliciter, cette machine, pour justement, si c'est une métaphore du monde moderne, du monde urbain aussi, hein, je veux dire, ça construit, ça démolit tout le temps. La machine est tout à fait conciliante. Elle pourrait le détruire en une seconde, quoi. Donc au contraire, c'est très conciliant. Donc je suis d'accord avec vous.
Juste une question justement par rapport à ce romantisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles en sont vos sources, quelles sont les sources de votre romantisme ? Parce que le romantisme, c'est quelque chose qui travaille toute votre œuvre, non ?
Je crois que je suis profondément romantique, mais à force de vieillir, à un moment donné, on s'aperçoit bien que c'est une quête comme ça que l'on pourrait avoir, que tout individu, je pense, a. D'une certaine manière, rêve de quelque chose. Mais après, c'est un jeu que l'on a avec soi-même en disant « bon, je suis un peu trop romantique là ». C'est ça qu'on dit des fois. Et je pense que après, dans le travail, c'est une façon... J'ai essayé d'ailleurs, hein, à plusieurs reprises, de ne pas mettre la musique de Callas, de mettre des musiques beaucoup plus électro, des choses beaucoup plus au fond d'aujourd'hui, on va dire, hein, entre guillemets, en supposant que ça existe d'ailleurs. Et je me suis aperçu que c'était une façon, encore une fois, c'est comme si la machine était déjà dans le monde moderne. C'était pas la peine de redonder, j'allais dire, en disant, bah tenez, on va même aller jusqu'à mettre la musique électronique et le mettre dans un costume, je sais pas, en téflon, bien, on va aller jusqu'au bout. Je pense que ça aurait été une erreur. Justement là, ce qui en fond crisse un peu, c'est que la machine est en fonte et c'est la Callas qui chante. Donc ça crée une sorte de déséquilibre dans le regard, et c'est ce qui crée au fond un trouble pour moi, sans chercher à être moderne justement, ce qui pour moi serait une erreur justement.
Dans votre texte de présentation, vous parlez justement de cette machine, vous posez la question, serait-ce un rêve d'enfant que je vais investir à l'âge adulte. Et je trouvais qu'il y avait comme une inversion de ce rêve, parce que l'enfant, finalement, c'est celui qui peut contenir son jouet dans la main. Et les proportions avec la réalisation de ce rêve sont inversées. Et en même temps, on voit bien que quand la machine porte l'homme, c'est comme si l'homme se sentait toujours porté par son rêve, en fait. C'est-à-dire que la machine est peut-être devenue plus grande que lui, mais c'est comme si le rêve grandissait avec la vie et était porteur d'un plus.
J'ai rien à ajouter, oui, je suis encore d'accord. C'est juste, c'est que effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que est-ce qu'on pourrait pas créer un lien? Je sais pas, hein, je suis pas de philo, mais en même temps, c'est intéressant parce que l'enfant, quand il joue avec un objet, on se rappelle, on était tous gamins à un moment donné, on crée un monde. C'est-à-dire qu'on y croit. Il y a de l'ordre de la croyance, il y a de l'ordre de la on est entier avec l'objet. Et je pense que le romantisme, au fond, d'une certaine manière, c'est une quête. Qui a à voir avec ça, plus ou moins. Et je pense qu'effectivement, je ne joue pas avec un jouet d'enfant, on pourrait dire, mais quand je parle de rêve d'enfant, c'est à voir avec ça, c'est à voir avec l'intégrité. Et on pourrait peut-être dire par extension, donc c'est évidemment un fantasme, c'est de se dire, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien que l'on vive tous, nous les êtres humains, le monde d'aujourd'hui comme un monde en chantier dans lequel on participe, même passivement, mais on participe tous. Donc on peut très bien dire, c'est pour ça que je crois à ça, c'est que sur un public de 100 personnes, il y a toujours un qui dira « je ne suis pas sûr que ce soit la bonne piste ». Et donc cette personne est aussi à entendre que 99 autres qui vont dire « c'est un chef-d'œuvre ». Je pense que celle qui ne croit pas au chef-d'œuvre, justement sur le public de 100, est à entendre aussi bien que ceux qui disent que c'est génial. Parce que c'est important ça. Et donc c'est pour ça que je parle de chantier, c'est-à-dire que c'est jamais posé. On voudrait tous que ce soit pour un peu de calme, on voudrait que ce soit posé, que les choses soient bien calées dans des cases. Et je pense que, je ne dis pas que je fais de l'art, j'en sais strictement rien, je m'en fous d'ailleurs. Mais je pense que c'est notre rôle d'individu, d'homme, de s'impliquer pour justement, je ne sais pas, c'est ce que fait Taoufik, c'est ça? Oui, si, je pense. C'est-à-dire qu'il propose à un public quelque chose qui vient, mais c'est quoi, danse contemporaine, avec tout ce que ça veut dire de cliché derrière, de modernité, fausse modernité, et puis implication de corps. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, et si je peux aller contribuer à son rêve à lui, c'est rien d'autre qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il faut une pelleteuse sur une place, ou bien investir un théâtre et faire venir des gens, comme son défilé. J'ai adoré son défilé qu'il a fait dans la rue avec le groupe de musique traditionnelle, et j'adhère totalement, ça a du sens pour moi, un sens fort, et pas obligé de mettre des danseurs, je dirais, sur un plateau avec 4000 personnes. Là, il dit les choses. Moi, je suis très sensible à ça, c'est formidable. J'ai adoré cette histoire.
Pour terminer, avant de laisser la place à mes collègues, vous avez, dans votre parcours, rencontré le travail d'Alvin Nicolaïs et aussi Caroline Carson, mais par rapport à Alvin Nicolaïs, par exemple, Daniel Debeuls disait à propos de lui, c'est quelqu'un dont le travail sur la géométrie et l'abstraction permet de protéger le corps, de ne pas l'abîmer. D'avoir un contact sans l'oppresser. Et je me disais, étant donné que vous avez fait un solo où vous vous questionnez par rapport à votre héritage sur la danse, ce qui vous a travaillé, il m'a semblé qu'en fait, dans ce rapport extrêmement respectueux et d'intégrité, il passait quelque chose de la réception d'Alvin Nicolaïs. Alors, je ne sais pas.
Je ne pourrais pas dire, je ne sais pas, c'est trop proche en fait. Mais ce que je pourrais dire, il y a une chose qui me vient tout de suite, c'est que pour avoir travaillé un peu avec Cage et un peu plus avec John Cage, le musicien, un peu plus avec Nicolaïs, ils m'ont appris deux choses ces deux-là. Ils m'ont appris qu'il n'y a pas d'interdit. Rien n'est interdit. Et je me souviens très bien quand Nicolaïs, je disais, oh, j'aimerais bien faire, je dis n'importe quoi, hein, faire un moment de flamenco, puis en même temps finir en grand écart et après monter sur pointe. Il me dit, mais de quoi tu me parles, mon fou, mais il n'y a aucun interdit, tu as le droit. C'est tout ce dont tu es constitué qui m'intéresse. Fais-en ton alchimie, fais-en ton œuvre, voilà. Et pareil pour Cage, il n'y avait aucun interdit. Ça n'a aucun sens, l'interdit. Et donc, à partir de là, tout est ouvert. Ce qui est ouvert, c'est son monde intérieur, sa monde de perception. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'en fond, la pelleteuse, si je m'étais posé des questions intellectuelles avant et physiques, en disant, mais c'est dangereux, ça veut dire quoi? c'est quoi de me faire tout ça? J'aurais certainement pas fait, parce qu'au fond, c'est une idée complètement frappée de faire un truc pareil. En fait, c'est au retour des autres. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de, je dirais, de simplicité, je sais pas, c'est un peu prétentieux, mais beaucoup de spontanéité. Et c'est seulement après les retours que je me suis rendu compte. Ça m'a créé une distance et un regard en me disant, mais c'est une drôle de truc, quand même. C'est un drôle de truc, cette histoire. Et en même temps, ça paraît évident pour moi de faire ça, justement. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avec le rapport à l'urbain et tout ça. On pourrait très bien faire un duo avec un rouleau compresseur, ça serait très beau. Parce que ça dit des choses, le rouleau compresseur.
Internet de la compagnie au geste, et j'ai lu deux phrases qui m'ont interpellée. Il est écrit « La danse est un art de représentation qui exige non seulement une rigueur d'exécution, mais aussi une clarté d'intention. Pour que la nature profonde du mouvement nous soit révélée, la motivation qui le génère doit être limpide. » Donc on s'est plutôt arrêté sur le mot « limpide » et on s'est interrogé sur... C'est la guerre. Est-ce qu'il y a une limpidité possible dans la danse contemporaine?
Alors, quand on dit ça dans le site, motivation et limpidité. Motivation, ça veut dire que c'est tout l'être qui est en mouvement. Imaginons l'inverse. Imaginons que ce soit quelqu'un qui danse et en fait il sait pas ce qu'il fait. Ça serait la motivation, elle est très trouble. Pourquoi il bouge? Et pas limpide, parce qu'il y a comme une sorte de... Ce qu'il y a de belle, c'est pas intéressant. Ça veut dire que la question, elle est posée. Ce que ça veut dire, ça vient de Nicolaïs, ça. Il y a motivation, ça veut dire que tout l'être est totalement investi dans le mouvement, quand il en danse, et a priori limpide, parce qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est dit. Et ça vient de Nicolaïs, ça.
D'accord.
Motivation et limpidité.
Donc, votre spectacle et limpide.
Vous parlez de transport là, hein. Vous parlez de transport,
oui,
exceptionnel.
Oui, bien sûr, oui, oui.
Alors, si je dis oui, vous allez dire, oh là, qu'est-ce qu'il est prétentieux.
Non, pas du tout.
Mais ça pourrait. Et on, disons qu'on tend à être limpide, oui. Le danseur, le chauffeur et moi pour avoir initié tout ça. On tend à être limpide. Maintenant, c'est tout à fait possible que dans 5 ans, quand je vais avoir peut-être faire tout à fait autre chose, je vais me dire, mais c'est pas du tout limpide, il y a mieux à faire. C'est possible d'ailleurs. Et heureusement, c'est pour ça que j'en fais un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Parce qu'on voit toujours que l'on va être plus clair et beaucoup plus généreux et infiniment plus implacable aussi dans le spectacle qui va suivre. C'est pour ça qu'on en fait un autre d'ailleurs.
Oui, j'ai une petite question à vous poser, c'est à propos de la danse en tant que art vivant, qui est en perpétuel mouvement et qui change en fonction des prestations, en fonction du milieu, de la ville, du climat, tout ce qui va avec. Même hier, vous disiez qu'il y a eu, je pense, autant de spectacles que de représentations. Donc ma question, c'est à un moment donné, dans le duo qui est homme-machine, deux choses complètement... un peu différentes ou qui se rejoignent à un moment donné. Donc j'aimerais savoir quelle est la plasticité de l'un, à un moment donné, quel est l'un d'entre eux qui est le plus dans cette plasticité. Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que
c'est elle qui a pris le dessus, elle est facilement changeante, changeable par l'action de l'homme, ou est-ce que c'est le contraire? C'est cet homme qui a fini par subir les limites de la machine dans la prestation.
Alors, c'est dans le sens métaphore ou dans le sens réel que vous parlez?
Dans le sens réel.
Dans le sens réel. D'abord, il y a une chose, c'est que quand on a commencé à faire ce travail, la machine, on a découvert un joyau, parce que cette machine, on peut faire énormément de choses. Donc, elle est pas infinie, non, mais elle peut faire beaucoup de choses, et beaucoup de choses en même temps. Elle peut tourner et monter, par exemple. Elle peut tourner, monter et ouvrir le godet. Donc, elle peut faire beaucoup de choses. Donc, déjà, c'est comme un danseur, c'est-à-dire qu'on, toute proportion gardée, hein, ça va pas aussi vite qu'un danseur. Mais c'est quelque chose de très de l'ordre, si je suis clair, hein, vous le dites, bon, c'est de l'ordre vraiment mécanique. Et donc, là, on a exploré beaucoup. Et après, en fur et à mesure qu'on explorait, on découvrait, on n'a pas fini d'ailleurs, hein. On continue toujours, et ça change. Là, cette fois, le godet était tellement énorme qu'on a changé des choses. Donc, ça veut dire que c'est toujours en action, on ne peut pas dire c'est clé en main, quoi. C'est pas sur un plateau, c'est quand même avec une machine. Une machine, elle a évidemment, qu'on le veuille ou non, elle est plus ou moins lourde. On va de 6 tonnes, et là, celle-là fait 18 tonnes. Donc on a un panel énorme. Donc au Brésil, elle était encore plus grosse que celle-là. Donc vraiment, il y a différentes sortes, hein. Et donc, à chaque fois, on est obligé de s'adapter. Il y a une inertie selon les machines, une vitesse, elle est plus petite. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, la chorégraphie s'est établie en fonction du rapport danseur-machine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire quand ils sont face à face, quand le godet monte ou quand il est au sol, si ça se voit, elle bouge comme si elle respirait, etc. C'est juste des mouvements, au fond. Quand on le fait sans la musique, ça dit tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus, je dirais, ça a un côté très graphique. Au fond, c'est comme une calligraphie. Assez proche d'une calligraphie, c'est la musique qui donne éventuellement un sens romantique. Et sinon, on pourrait très bien mettre de la musique électro, hein, ça serait tout à fait autre chose, ça dirait autre chose. Cependant, on est très attaché à l'aspect mécanique entre le danseur et la machine. Je ne sais pas si j'étais clair, ça va ?
Par rapport au chantier, parce que cette pelleteuse présente place Jamal Fna, on se dit mais elle va creuser, non? Une pelleteuse c'est fait pour creuser d'abord, et quand on dit que le monde est en chantier et que vous me disiez que un de vos rêves par rapport à ce spectacle ce serait de le jouer à Ground Zero. Et Ground Zero, c'est le lieu aussi de la destruction par excellence. Aussi, alors, un monde en chantier, c'est aussi un monde qui détruit et un monde qui construit. Et qu'il y a un processus de destruction-construction. Et alors, ma question serait un peu, je ne sais pas s'il y a une réponse possible, mais qu'est-ce que la danse aurait à détruire dans ce monde et qu'est-ce que la danse aurait à construire dans ce monde ?
Je crois deux faits par le corps, c'est-à-dire que déjà sans même raconter, déjà le corps il raconte ça. C'est-à-dire que je pense que quand on voit Kazuo Ono danser, il dit déjà quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on le voit qu'il ne peut plus, je ne sais pas, ou même Cunningham, c'est magnifique Cunningham. On a eu la chance, nous, de le voir dans les années 70, de le voir décliner. Et je pense qu'au lieu que ça soit triste, ça a quelque chose d'inexorablement, et c'est pas être fataliste. Je crois que c'est lié à, je sais pas comment dire, je vais faire des choses, une philosophie à deux balles, mais pour moi c'est la vie même. Et je pense qu'il a eu la générosité, Cunningham, de nous montrer ça, c'est de nous montrer petit à petit un corps qui bouge de moins en moins jusqu'à s'accrocher à la barre, jusqu'au point d'être dans une chaise roulante. Et je pense qu'on lui doit ça, et c'est ça que la danse a montré. Au fond, elle montre ça. Qu'est-ce qu'il montre, Cunningham? Ça, il ne montrait pas aimez-moi malgré tout. C'est pas ça. Il montre, je pense, l'inévitable. Et je trouve que c'est un acte très, très généreux qu'il a fait. Au même titre, ouais, c'est ça. Kazuono, j'adore Kazuono. J'ai adoré Kazuono. Justement, parce qu'il ne montrait plus que des esquisses d'esquisses, pratiquement. Ça devenait une sorte de truc sublime, quoi, sublime. Enfin, moi, j'adore. Et je pense que c'est ça que la danse donne. Et détruit, construit, de fait. Et après, le reste, ce sont des histoires. Mais ça, pour moi, c'est le réel. Enfin, c'est vraiment concret, quoi. Et c'est inexorable. Et c'est beau. C'est super beau.
Une question pour essayer de raccrocher ou de relier ce spectacle à Marrakech et notamment à cette place Jemaa el Fna. Parce que cette place, c'est une place qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité de par son architecture. Donc c'est aussi un lieu de l'universel. Et en même temps, c'est territorialisé, donc c'est un universel singularisé. Et dans cette place-là, à quelques mètres du lieu du spectacle, il y a beaucoup de charmeurs de serpents. Et ce spectacle-là, c'est un spectacle de charmeurs d'une machine, d'une certaine manière. Alors je me disais, est-ce que ce spectacle-là, la langue de ce spectacle-là, le langage développé par ce spectacle-là, finalement n'est pas en lien direct avec un art ancestral déjà présent dans cette place et que finalement il y aurait une contemporanéité de ce spectacle ici, place Jemaa el Fna, par rapport à l'art de charmer, la technique de charmer, ce qui n'est pas humain, ou l'animal, ou la machine.
C'est super, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Ah ouais, je trouve que c'est très joli de faire ce rapprochement, parce que, en tout cas, ça me parle. Maintenant, je suis content que ce soit vous qui me le disiez. Je n'ai pas pensé, mais d'un seul coup, je me dis, ça me paraît effectivement presque comme une évidence, mais pas comme une évidence prétentieuse, au contraire, une sorte d'évidence modeste, je dirais presque. Et j'ai rien à dire, c'est super. En plus, il y a une chose qui était très jolie, qui ne s'est pas produite, en tout cas, je n'ai pas entendu aujourd'hui, c'est que samedi, quand on l'a fait, il y a eu à un moment donné la prière, voilà, la voix de la prière qui est arrivée, voilà. Et c'était magnifique, parce qu'en même temps, c'est au moment où Philippe est monté sur la pelleteuse, d'un seul coup, comme ça, d'une manière très pompeuse presque. Hein. Il monte comme ça, il grandit. Et c'est pas pour représenter le Christ, j'ai rien à dire avec là, ça. C'est vraiment pour l'élan amoureux, encore une fois. D'un seul coup, ça va envie de cime. C'est un peu comme ce peintre magnifique, là. J'ai un trou. Bref, c'est pas grave, je vais le retrouver. Et Friedrich, voilà, David Friedrich. Donc, c'est très beau quand on voit un homme seul dans la nature, paumé. Et d'un seul coup, c'est ça pour moi aussi. Quand il monte sur la pelleteuse, c'est aussi ça. C'est aussi avoir une référence à cette. Voilà. Et donc, je ne peux pas rien rajouter d'autre que. Je suis très content de ce rapprochement que je trouve très joli. Vraiment.
Pour poursuivre sur. Essayer de voir comment l'archaïsme de cette proposition contemporaine est cette fois-ci du côté de l'histoire de la danse en Europe. Tout à l'heure, vous disiez qu'avec Cunningham, vous aviez appris qu'il n'y a pas d'interdit. Cependant, je me pose quand même la question de la transgression sur ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui en appelle beaucoup aux références du ballet et de la danse classique. Or, sur le ballet et la danse classique, c'était aussi une danse où le roi était au centre. Et donc une danse qui est aussi une danse de l'élévation et vers la spiritualité, le divin. Alors que là, vous mobilisez tous les codes de la ballet classique pour quelque chose qui est très matériel, hein, qui est l'objet. Et je me demandais s'il n'y avait pas là une sorte de transgression vis-à-vis de l'histoire de la danse, en tout cas en Europe.
D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Mais je pense que j'ai utilisé un langage, pas un langage, mais disons un schéma que tout le monde a intégré déjà, dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, c'est-à-dire le mode de représentation de l'adage classique, voire académique. Et donc j'ai utilisé ce code de façon à ce qu'il n'y ait pas de trouble et d'interférence entre ce que je voulais vraiment dire, entre la machine et l'homme. Et je ne voulais pas, c'est pour ça que je parlais de musique électronique, etc. J'essayais de faire en sorte qu'il n'y ait aucune interférence. Donc, motivation et limpidité. Essayer d'être simple, mais pas pour que le public comprenne. Il n'a rien à comprendre, je n'ai rien à lui dire, moi. J'ai aucun message, c'est pas du tout, tu vois. C'est pas ça, c'est juste dans le sens que j'avais juste envie de dire une chose, ce dont on a parlé depuis déjà un quart d'heure, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir entre un mariage et lié au monde en construction. J'avais envie d'être positif avec cette image. Au même titre, de façon plus anecdotique, le travail qu'a fait Spielberg avec E.T. est infiniment intéressant, justement, parce qu'il nous montre là un extraterrestre positif, en tout cas quelqu'un qui vient par là pour attaquer l'homme. Au fond, ça relève toujours la même chose. Je pense qu'au contraire, il fait venir quelque chose de très fragile, et pourtant, c'est un extraterrestre très laid. Et j'aime beaucoup cette idée qui fait partie, au fond, de quelque chose qui pourrait être universel. C'est-à-dire, et c'est, ça fait aussi un rapport de tolérance, d'une certaine manière, et donc d'acceptation de l'impossible. Et donc, c'est pour ça que c'est un rêve d'enfant, et c'est pour ça que je dis que je fais un rapprochement avec le romantisme. Pour moi, tout ça, ça a à voir avec un rêve absolu, de tolérance, d'amour possible, mais en même temps on est dans la construction, on n'est pas dans la mélancolie, sûrement pas.
Est-ce que cet élan positif ne nécessite pas d'humaniser l'autre, c'est-à-dire d'humaniser la machine? Parce qu'il faut préciser que dans cette duo, c'est bien duo entre un danseur et une machine, parce qu'on ne voit pas celui qui manipule la machine. Alors vous donnez une vie à la machine, une autonomie et une souveraineté. Et en ce sens, cette machine est vivante. Donc il y a un processus finalement de vers soi, c'est-à-dire d'humaniser la machine pour pouvoir construire avec elle et être dans un élan positif.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai mis de la musique plus moderne, plus contemporaine, et même des tas d'essais musicaux, musique électronique, etc., ce dont je parlais tout à l'heure, même des musiques, des chansons françaises, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas moderniser. Et quand j'ai utilisé la Calas, on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, on humanisait la machine. Et donc, que la machine, elle représente l'urbain. Donc, d'une certaine manière, ce qui nous entoure. Donc tout ça, ça a à voir effectivement avec un message au fond d'amour et surtout, j'allais dire, de paix. C'est un peu prétentieux, encore une fois, j'ai pas de message. Mais je pense que ça a à voir quand même avec tout ça. Mais qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement. C'est pour ça que le chant, c'est un chant, bon, elle dit pas des choses, ouais, on s'aime, c'est super. Non, au contraire, la chanson est extrêmement triste. Mais ce n'est pas. Mais le message reste quand même un message d'amour. Et donc, évidemment, la Calas humanise terriblement la machine. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise, pour justement rendre, et quand je fais référence à l'idée d'un duo d'amour, un duo du 19e voire académique, c'est évidemment tout ça, hein, c'est un duo d'amour effectivement, absolument.
Moi j'ai juste une remarque à faire, qui n'est pas une question. Mais à la fin du spectacle, donc la chemise blanche du danseur se retrouve tachée par le cambouis de la machine. Et ça me rappelait en fait ce que Georges Didier Huberman rapporte du torero Belmonte, qui au sortir d'une corrida explique le trouble qu'il peut avoir en découvrant que tout son costume et plein de poils de la bête. Et que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a vraiment une passation de force et une pénétration physique et spirituelle entre lui et la bête.
Oui, d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on savait pas ça. Je voulais qu'il soit vraiment un homme représenté avec une chemise blanche et un pantalon noir, ultra classique. On ne déguise pas, on représente que ça. Et même j'ai pensé à un moment donné qu'il soit en bleu de travail, tout ça, mais c'est anecdotique. Il fallait vraiment qu'il représente un homme, comme tous les Indiens s'habillent comme ça d'ailleurs, pantalon noir, chemise blanche. Je trouvais que c'était une façon d'être représenté le masculin, simplement. Et donc, après la première fois qu'on l'a fait, je ne m'étais pas rendu compte ce qui allait arriver. C'est-à-dire, la chemise blanche allait être inévitablement tachée. Et ce qui était très joli, c'est qu'effectivement, on arrive à la trace, c'est-à-dire qu'il y a véritablement eu un rapport. Un rapport entre l'un et l'autre. Alors évidemment, c'est pas lui qui tâche la machine, hein. C'est plutôt l'inverse. mais j'aime beaucoup. À un moment donné, ça nous a tellement touchés de voir cette chemise complètement, parfois même déchirée, qu'au début, on les gardait, les chemises. Donc on en a une vingtaine à peu près, où elles sont tachées, on les a laissées comme ça. Je me suis dit, un jour, ça serait joli de faire une exposition. Ça devient presque, en fait, un objet plastique. Parce que les taches sont pas au même endroit, parce que les taches, c'est pas de la même sorte. Il y a des terres rouges, ça dépend du pays où on est, ça dépend le cambouis, ça dépend... Et j'ai trouvé ça... Des fois, les chemises sortent pratiquement impeccables. Parce qu'ils ont briqué la machine, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et effectivement, il y a de ça, ouais. D'ailleurs, je trouve ça très joli de l'associer, effectivement, à la tauromachie. À un moment donné, on l'a fait dans une arène en France, et ça a donné tout son sens, là. Enfin, ça avait un sens. Tout son sens, je sais pas, mais ça avait un sens. Et là, évidemment, le rapprochement s'est tout de suite fait. Parce que la piste organisait, en fait, une forme de combat. D'une certaine manière, c'en est un aussi, hein, parce que c'est pas simple. Le danseur avec la machine, c'est dur, hein, c'est de la fonte. Et on l'a fait dans la neige, on l'a fait... Je rêverais de le faire dans les glaces. Mais bon, voilà, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup.
Festival et sur le fait qu'il s'appelle On Marche, j'aurais aimé savoir ce que ça vous évoque pour vous. On Marche, la marche, la marche en danse, et puis par rapport à ce que vous avez vu de la marche lors de l'ouverture, quelques voilà, voir votre regard sur à la fois le titre et ce qui s'est passé.
D'une certaine manière, On Marche ou On Marche, déjà ça signifie pour moi qu'on avance. Marcher, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre déjà. Donc ça veut dire qu'on marche, on avance, ça va plutôt dans le sens que j'imagine du monde. C'est-à-dire que c'est plutôt pas mal, qu'en fait on y va. Et ce que j'ai pu voir des pièces, ce qui est important, c'est qu'il y ait des pièces qui soient jouées ici, qui soient vues, qu'il y ait un public qui vienne voir. Et j'ai trouvé plutôt intéressant ce défilé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois de plus, on est dans la rue. Et je trouve, alors là, autant ça a tout son sens. En France, oui, c'est bien de le faire dans la rue, mais on a l'habitude. Ici, d'un seul coup, ça a du sens. Parce que la danse contemporaine, dite contemporaine, dans la rue, là, d'un seul coup, ça parle pour moi. Parce que je me demanderais même si la 6e édition ne pourrait pas se faire que dans la rue. Parce que là, avec des balisés, mais avec, on voit des choses, même dans la danse classique, d'ailleurs. Et je trouverais intéressant parce que la rue, c'est tout le monde est dans la rue. La vie est vraiment dans la rue. Nous, on vit plutôt dedans, parce qu'il fait froid, etc. Mais ici, il y a beaucoup de gens dans la rue, c'est magnifique, il y a une sorte de... ça avance, c'est comme au Vietnam, c'est pareil, ils sont tous dans la rue, tout le monde est dans la rue. Très peu ont leur une vie dedans, c'est les Occidentaux qui vivent dedans. Mais tout ce peuple-là, c'est magnifique, c'est une énergie considérable. Et je me dis, tiens, la danse, elle a à voir là-dedans, quand même. D'où d'ailleurs mon plaisir d'avoir fait cette pièce, effectivement, d'une part sur cette place qui est quand même archi-connue, et symbolique, et en plus de la faire dans la rue, évidemment. Ça, c'est magnifique.
Eh bien, on vous remercie d'avoir ouvert le chantier de la 5e édition du Festival On Marche et le chantier pour la danse contemporaine ici au Maroc, de nous avoir accordé ces quelques instants pour cette discussion, et on vous souhaite bon retour. Je ne sais pas où vous allez prochainement jouer ce spectacle.
On part en Nouvelle-Zélande. On va jouer ce spectacle là-bas.
Eh bien, bon voyage et merci.
On Marche, 5e édition, Marrakech. Entretien, Dominique Boivin. Pour sa pièce, Transport exceptionnel.